Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Parents et enfants unis contre la désinformation. Bienvenue à tous dans votre magazine Bana Okapi, un programme réalisé grâce au partenariat Radio Okapi UNICEF RDC. Chaque jour du lundi au vendredi des 15h30 à 17h, nous vous retrouvons pour ce rendez-vous dédié aux jeunes, aux plus jeunes et aux parents. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, la désinformation. Ce fléau qui menace la liberté et la démocratie a pris une ampleur alarmante avec l'avènement des plateformes numériques. La pandémie de Covid-19 a été un révélateur, accélérant la propagation de fausses informations. La population congolaise, en particulier les jeunes, est à la fois victime et vecteur de cette gangrène qui mine nos institutions et alimente la violence et la haine. Alors, comment pouvons-nous ensemble lutter contre la désinformation et la mésinformation? Quelles sont les stratégies et les outils à notre disposition pour contrer ces fléaux? Dans ce numéro, nous avons réuni jeunes, des parents et des experts pour vous donner des clés et des conseils pratiques pour déjouer les pièges de la désinformation. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Mimi Kindo. Christian Mapindanoya, Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele, Dijano.
Bana Okapi.
En République démocratique du Congo, la désinformation s'est érigée en un véritable fléau, infiltrant tous les aspects de la vie quotidienne et sémant la confusion au sein de familles. Comment ce phénomène insidieux impacte-t-il la relation entre parents et enfants, leur sécurité et leur bien-être? Nous faisons le point avec vous, Kelvin Bayeni.
En RDC, la désinformation représente un défi majeur, notamment en matière de santé, de politique et de sécurité. Avec l'essor des réseaux sociaux, enfants et parents sont exposés à des contenus trompeurs aux conséquences graves. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, tire la sonnette d'alarme. La prolifération de rumeurs sur les réseaux sociaux a un impact dévastateur sur la couverture vaccinale en RDC, exacerbant ainsi la méfiance et alimentant la désinformation. Les enfants, en particulier les plus jeunes, sont des proies faciles pour les fausses informations sur les vaccins. Par exemple, des rumeurs persistantes sur la dangerosité des vaccins contre l'Ebola et la Covid-19 ont semé la panique, entraînant une chute drastique des taux de vaccination, comme le révèle une étude récente de l'Organisation de la Santé de l'Afrique centrale. Mais la désinformation ne se limite pas à la santé, elle perturbe également le développement émotionnel et social des enfants. L'exposition répétée à des informations alarmistes et non vérifiées, notamment sur les conflits armés et les catastrophes naturelles, provoque chez eux de l'anxiété, de la confusion et de la peur. Une étude de l'UNICEF a mis en lumière l'impact direct de cette exposition sur le bien-être émotionnel et social des enfants, compromettant leur capacité à comprendre le monde qui les entoure. Les parents, eux aussi, sont souvent victimes de la désinformation. Ils sont inondés de fausses informations sur la politique, l'économie et la sécurité, ce qui influence leurs décisions en matière de santé, d'éducation et de sécurité. Par exemple, de nombreux parents refusent de faire vacciner leurs enfants, cédant aux rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux. Un rapport de l'ONG Congo Tchèque souligne l'impact désastreux de ces fausses informations sur les choix de santé des parents, entraînant une baisse alarmante des taux de vaccination. Face à cette menace grandissante, les parents ont un rôle crucial à jouer. Ils doivent apprendre à leurs enfants à développer leur esprit critique, à vérifier les sources d'information et à distinguer les vrais du faux. L'UNICEF recommande vivement aux parents de s'engager activement dans l'éducation de leurs enfants aux médias et à l'information. La lutte contre la désinformation est un défi de taille, mais elle est essentielle pour protéger l'avenir des enfants et préserver la stabilité des familles en République démocratique du Congo.
Les amis de Bano Okapi, avec toutes les informations qui circulent, comment les enfants savent-ils ce qui est vrai? Comment font-ils pour vérifier? Parle-t-il de désinformation en famille? Greta Lulendo a posé ces questions aux enfants. Écoutons leurs réponses.
Dites-moi, avez-vous déjà été confronté à la désinformation?
Oui, plusieurs fois même.
Racontez-nous votre expérience.
Déjà, à ce qu'il s'agit des informations, plusieurs fois, on le voit même dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines structures, lorsqu'ils mettent des informations, et tu peux prendre ça aussi, tu le postes, et après tu verras que ce n'était pas la bonne information. Et ça fait pas bien, vous voyez. Donc, les réseaux sociaux, certaines chaînes aussi télévisées, ils diffusent des choses, c'est après qu'ils viendront encore pour démentir cela. C'est ça les informations que nous vivons dans notre société, quoi. Récemment, il y a eu une information, je l'ai lue sur Facebook, si je peux dire. C'est après que le gouvernement est venu pour démentir cette information. Mais il y avait certains régimes, certaines structures qui ont confirmé cela. Il y a eu deux contradictoires entre le gouvernement et d'autres structures de médias. Et voilà un peu.
Bien sûr, à plusieurs reprises d'ailleurs. Okay. Sur la désinformation, nous avions vraiment eu beaucoup. Je donnerai d'ailleurs un exemple. Il y a eu une information qui a circulé sur le réseau parlant du décès du pape François. Mais malheureusement, ce n'était pas une vraie information. C'était vraiment une fausse. Et aussi, sur le réseau social plus, nous voyons aussi TikTok. Il y a des informations qui circulent plus sur TikTok aussi.
Oui, bien sûr. C'était une fois, sur l'Internet, j'ai reçu une information parlant de la rentrée scolaire est repoussée pour une date ultérieure.
Oui, à plusieurs reprises. Ouais, j'ai été à plusieurs reprises confronté à la désinformation, surtout au niveau de l'Internet. Dans des pages, je pourrais donner un exemple tel que sur l'affaire de la guerre à l'Est, je suivais certaines pages qui disaient Goma a été pris, Goma n'a pas été pris et tout ça. On voyait beaucoup de pages en fait. Chaque page avait son information propre à elle. Et alors, on a passé la journée où on ne savait pas où se situer. C'est ça la désinformation en fait. Il y a de ceux qui disent, chaque parti donnait l'information par rapport à sa tendance en fait. C'était ça.
Oui, pas mal de fois. Une fois, j'avais vu sur le net que non, Jean-Marc Kaboun était mort. Et deuxième fois, j'avais vu que Christian Malanga avait fait un coup d'état. Et puis troisième fois, j'ai vu que non, le M23 avait récupéré la ville de Bukavu. Lui, c'est un peu de regarder dans les comptes du gouvernement pour le sujet de Bukavu. J'ai trouvé que le gouvernement n'avait pas affirmé que le M23 avait pris la ville de Bukavu. Et puis sur Christian Malanga, sur Internet, il y avait un monsieur qui disait que non, le président était vraiment là-bas et puis il est mort. Et puis sur Jean-Marc Kaboun, c'était au mois de septembre, si je me trompe, on avait dit que Jean-Marc Kaboun est mort en prison. Mais j'ai vérifié, les proches de sa famille et sur son propre compte Twitter, j'ai trouvé qu'il n'était pas mort. Et puis je me suis dit que non, l'information que je venais de voir était une fausse information.
Et comment avez-vous réagi face à cette mauvaise information?
Ah, sincèrement, ça énerve. Hein. Ça énerve surtout que nous faisons confiance aux professionnels. On sait qu'ils sont professionnels dans ces domaines. Et lorsqu'ils nous donnent certaines informations comme ça, c'est après qu'il faut encore démentir. Ça énerve. Parce que nous croyons en eux, ça décourage aussi. Voilà.
Déjà, j'avais trouvé ça un peu normal parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent ici au Congo. Surtout plus dans de médias pas sérieux, je dirais. Oui. Alors, moi, perso, lorsque j'ai constaté cela, Je consulte maintenant de manière sûre pour ne pas être énervée sur la désinformation.
Et puis, je me suis dit que non, l'information que je venais de voir était une fausse information.
J'étais mécontent, puis triste aussi.
Quelles sont les astuces que tu as utilisées pour vérifier cette information?
J'utilisais l'Internet et avant de poser des questions aux autorités de l'école.
Et sur Internet, tu as cherché où, n'importe où, ou tu as cherché des sources fiables, de médias, où est-ce que tu as cherché?
Je regardais sur les pages du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement.
Déjà, j'avais donné un exemple au début sur le décès du pape François. Lorsque j'ai su cette information, je m'étais directement rendue sur Vatican News. C'est vraiment un média proche du pape, mais c'est aussi sur le réseau, mais c'est proche du pape. C'est au travers ces médias que j'avais eu une information sûre que le pape n'était pas mort. Donc je vérifie maintenant dans des médias sûrs et proches.
Bon, quand je vois une information sur la toile, j'essaie de l'analyser d'abord personnellement. J'ai réuni quelques éléments et puis après j'ai vérifié dans mes pages, comme je t'ai dit. Donc tu dois toujours avoir certaines références. J'ai certaines pages références. Des pages de référence où je veux suivre les informations. Je sais que cette page est fiable par rapport à mon expérience. Donc la stratégie est que je vais dans les pages de référence pour voir, dans les pages officielles.
Souvent, sur les informations qui concernent la République, il faut se baser sur les comptes Twitter de la République. Je me base sur des comptes certifiés. Le compte où je peux m'assurer que non, c'est la personne et c'est toute une organisation qui est sur les réseaux sociaux. Plus souvent, parce que moi, j'ai pas le temps de regarder la télé, en tout cas. Je consacre trop mon temps sur le téléphone, tout ça.
C'est bien clair, pour vérifier une information, on recourt dans des pages officielles du gouvernement ou soit de personnes publiques.
Bon, personnellement, quand je vois, depuis ces jours-là, depuis ces désagréments, à chaque fois qu'il y a des informations comme ça, j'essaie de vérifier à 2-3 médias pour voir vraiment si c'est la vraie information. Hein. Et voilà.
Est-ce que vous parlez aussi de la désinformation en famille?
Pas trop. C'est arrivé, mais c'est pas vraiment une habitude, c'est rare.
Non.
On n'a pas le temps.
Comment parlez-vous de la désinformation en famille?
Ah, la désinformation en famille, c'est d'ailleurs un débat chez nous. Chacun vient avec son information. On ne sait pas à qui croire, mais grâce aux médias sûrs, et nous consultons tous ensemble pour ne pas avoir de laquis ni autre ou de désinformation.
Eh bien, les amis, vous venez de suivre les Bana Okapi qui expliquaient comment ils font pour vérifier les informations qui circulent sur le réseau. Alors, dans un monde où l'info va vite, il faut vérifier avant de partager. Les parents le savent. Les fausses infos, c'est dangereux. Kelvin Bayeniari qui a eu leurs témoignages et leurs astuces pour déjouer le piège de la désinformation. On écoute.
En tant qu'humain, oui, une seule ou deux fois, je n'avais pas des informations et il s'est fait que là où j'étais allé, j'étais un peu ridicule parce qu'on s'entendait à attendre autre chose et moi je disais le contraire de ce que les gens pensaient. C'était un peu ça, voilà pourquoi il faut être bien informé pour ne pas des fois être ridicule.
Comment avez-vous réagi face à une fausse information?
J'étais seulement déçu, et surtout provenant de la personne que je considérais, de vouloir me balancer une fausse information. Et sans vérifier, et j'étais allé vite en besogne et propager aussi les protestes, c'était une fausse information. J'étais déçu. Pour moi, j'avais seulement gardé mon sang-froid, mais j'étais seulement déçu et je n'étais pas fier de moi.
Quelles sont les astuces que vous utilisez pour faire face à la désinformation?
Actuellement, dès que je reçois une information, je cours vite au niveau de Google. Et à part ça, il y a aussi une application Phoenix qui donne aussi de bonnes informations. Je vérifie si c'est authentique, mais aussi sur France 24, si c'est authentique, j'ai peur en parler avec des amis. Mais sans vérifier, je n'ose pas balancer aucune information.
Alors, comment parlez-vous de la désinformation en famille?
Bon, en famille, j'ai deux petites sœurs et un petit frère. J'ai toujours l'habitude de leur dire, quand vous recevez une information, et que ça ne provient pas d'abord d'une source fiable et que vous n'en êtes pas sûr, il ne faut pas se précipiter pour dire de n'importe quoi. Vous risquez de salir l'image ou bien de donner une ampleur à quelque chose qui est fausse. Il faut vraiment vérifier et être sûr et certain que cette information, elle est bonne, elle est authentique et là, vous pouvez le balancer, sinon vous risquez de berner beaucoup de gens dans des trous.
Je me rappelle plus, mais c'était dans un média où on avait annoncé une information, mais c'était fausse. Et je me suis dit que je peux aller voir dans d'autres médias pour vérifier si réellement l'information était vraie, mais j'ai trouvé que c'était une désinformation en fait. C'était une information concernant, je crois, le gouvernement toujours. C'était concernant le gouvernement, on a essayé d'annoncer quelque chose contre un politicien, mais en vérifiant dans d'autres sites, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je suis allée vérifier dans d'autres médias. Moi, souvent, je fais recours toujours aux réseaux sociaux. Dans certains médias, par exemple, PPL News, c'est là que je confirme souvent mes informations. Souvent, c'est moi qui apporte des informations à la maison. Et là, souvent, mon père ou soit ma mère, ils essayent de me contredire concernant les informations. Mais vu que je suis sûre de mon information, ils acceptent quand même mon information. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une désinformation et que mon père est sûr de l'information, il me dit toujours que d'aller toujours vérifier dans un site ou soit dans un média pour confirmer l'information. Comme conseil, je dirais, au cas d'une information, si je peux dire, il faut toujours vérifier d'abord et chercher dans plusieurs médias à voir si l'information est diffusée dans plusieurs médias sûrs.
L'école, reflet de la société, n'est pas épargnée par ce fléau de désinformation. Il arrive que des élèves colportent des rumeurs et des fausses informations, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l'établissement. Face à ce problème, les enseignants agissent. Interdiction de diffuser les informations non vérifiées, sanctions prévues par le règlement d'ordre intérieur, mais ces mesures sont-elles suffisantes? Grâce au réseau Loire, rencontrer M. Odon Kiala, enseignant de français au complexe scolaire Elikia à Kinshasa Ngeli. Écoutons leur entretien.
Monsieur Odon Kiala, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, aujourd'hui nous parlons de parents et enfants ensemble contre la désinformation et la mésinformation. Alors vous, en tant qu'enseignant, est-ce qu'il arrive parfois que les élèves véhiculent des fausses informations à l'école?
Tout à fait monsieur le journaliste. L'école c'est une communauté, l'école c'est une partie de la société. Alors les enfants sont partie de la communauté, ils font partie de la société, alors c'est normal. Cela arrive fréquemment qu'un enfant vienne avec une information non fondée et sans critiquer, sans analyser, il vient véhiculer l'information à ses amis et cette information suscite parfois la curiosité de tout le monde. Voilà, donc ça se répand partout et puis parfois ça crée aussi un peu de panique au milieu des enfants. Si c'est une information qui essaye un peu de paniquer, ça va paniquer les enfants. Et vous allez voir que tout le monde commence à en parler et ça peut même créer un désordre au sein de l'école.
Alors comment réagissez-vous face à ces comportements?
Pour la musique. Dans la plupart des cas, il faut chercher à connaître celui qui a véhiculé l'information. Et quand vous le ciblez, vous le prenez à côté pour lui parler, certainement. Lui demander d'arrêter de véhiculer l'information, ça c'est la première démarche. Donc vous demandez à cet enfant de ne plus parler de ça. Et puis, cherchez à rencontrer aussi ceux qui ont reçu cette information et qui sont en train de la véhiculer un peu partout. Et vous les amenez avec vous, vous êtes quelque part, et puis vous leur demandez de ne pas continuer à divulguer cette information en attendant que les sources sûres soient découvertes. Parce que l'information peut être non fondée, alors il faudra chercher des sources sûres. Si c'est une information qui n'est pas fondée, donc on essaye un peu de réprimander ce groupe d'élèves qui véhiculent l'information pour que cela ne se répande pas partout.
Et quelle est la sanction prévue pour ces enfants-là qui véhiculent des fausses informations à l'école?
Une mauvaise information, une fausse information peut créer des troubles, peut même créer des accidents au sein de l'école. Alors, si cette information crée des incidents au sein de l'école, on va chercher les auteurs ou les agents vecteurs et on va le sanctionner suivant le règlement intérieur de l'école. Donc, on ne prend pas les sanctions de manière hasardeuse, mais on prend les sanctions par rapport à ce que le règlement intérieur de l'école est en train de prévoir en rapport avec l'acte posé par l'élève. Voilà comment nous sanctionnons ce genre de choses.
Comment les jeunes peuvent développer l'esprit critique face aux informations qu'ils reçoivent, monsieur Odon?
La première des choses, c'est leur donner de connaissances. Parce que quand on n'a pas de connaissances, on peut faire n'importe quoi. La première des choses, c'est ça. Donc, il faut qu'ils aient des connaissances sur l'information. Ils doivent avoir certaines connaissances sur l'information. Comment analyser et critiquer une information reçue avant de pouvoir la véhiculer partout. Donc, il faut nécessairement inculquer des connaissances aux enfants sur l'information. Et surtout, sur l'analyse et la critique de l'information avant de pouvoir diffuser cette information.
Certainement, les programmes nationaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique prévoient une matière pour vérifier l'information. Alors, quelles sont les activités pédagogiques que vous proposez, vous, en tant qu'enseignant, pour apprendre aux jeunes à vérifier les informations?
Voilà, si vous suivez ou vous regardez bien le programme national de l'enseignement au niveau secondaire, il n'y a pas tout à fait un cours qui s'intitule communication ou tout ça, information, non. Il n'y en a pas. Mais dans certaines branches, je prends par exemple dans le cours de français, il y a certains thèmes qui sont en rapport avec l'information, la critique de l'information, l'analyse, l'examen de l'information. Et puis au niveau de la quatrième des humanités, dans certaines options, parce que le cours d'histoire n'est pas programmé dans toutes les options. Dans les techniques par exemple, il n'y a pas le cours d'histoire. Quand je parle de technique, je peux prendre par exemple en électricité, il n'y a pas histoire. En mécanique, il n'y a pas histoire. Et puis en coupe-couture, il n'y a pas histoire. Généralement, pour les couturières, on parle de l'actualité. C'est là où elles étudient certaines notions de l'information. Alors, au niveau de la quatrième des humanités, pour certaines options, des options que nous appelons communément options générales, il y a dans le cours d'histoire une partie, un chapitre, sur la critique historique. Alors, cette partie du cours-là apprend à l'enfant à capter l'information, à l'analyser, à l'examiner avant de pouvoir véhiculer cette information. Et puis, il y a d'autres branches, telles que le cours d'éducation civique et morale. Là aussi, il y a certains thèmes qui sont en rapport avec la critique de l'information. Et puis, autre chose, c'est au cours de certains ateliers de formation, certaines conférences, où on prend des thèmes, par exemple, qui cadrent avec l'information, pour en parler aux élèves afin de les aider à pouvoir critiquer, analyser, examiner les informations avant de pouvoir les divulguer.
Vu l'importance du sujet, comment intégrer l'éducation aux médias dans les programmes scolaires selon vous?
L'intégration de médias dans l'éducation ou l'éducation aux médias, premièrement, c'est votre apanage en tant que journaliste, en tant qu'homme de médias. Mais vu la quintessence de ce sujet, si cela dépendait de moi, je demanderai au gouvernement de pouvoir, dans le programme de l'enseignement, intégrer de cours qui vont droit à l'information ou aux médias. Généralement, les gens n'ont pas la culture de suivre les informations. Ils ont la culture de ramasser les informations. Alors, pour ne pas ramasser les informations, il serait mieux qu'il y ait un cours en rapport avec le média pour donner aussi le goût de ce média. Je veux prendre un exemple. Aujourd'hui, les gens ont eu le goût du football. Ils ont vraiment le goût au football et il y a des gens qui sont devenus vraiment très animés quand ils entendent parler du football. C'est parce que depuis un certain temps, le football est en train de prendre l'ampleur. Et avec certains jeux de hasard que nous avons qui font gagner de l'argent aux gens. Et les gens commencent à s'adonner à cela. Alors, si on pouvait faire de médias aussi une priorité dans le programme de l'enseignement, je crois que les jeunes surtout seront attirés à apprendre parce qu'ils savent qu'au finish, ils vont gagner quelque chose par rapport au domaine qu'ils sont en train de faire pour lutter contre la désinformation.
Ces cours peuvent commencer à partir de quelle classe précisément? Est-ce qu'il faut commencer ces cours à l'école primaire? Mais alors, quel degré?
Déjà, à partir de l'éducation de base, c'est-à-dire 7e ou 8e, le cours peut commencer parce qu'il y a certains cours qui ne se donnent pas à l'école primaire, vu peut-être le volume de matière. Si déjà à partir de l'école primaire, je proposerais qu'on commence à partir de la 6e primaire, déjà à donner des notions préliminaires en rapport avec le média, et puis à partir de l'école secondaire, déjà à l'éducation de base, en 7e, 8e et jusqu'en 4e des humanités. Plus on monte de classe, plus le volume de matière aussi augmente, et puis on peut maintenant maîtriser ce qui est nécessaire par rapport aux médias.
Monsieur Audon, est-ce que les parents ont un rôle important à jouer dans cette démarche?
Tout à fait, monsieur le journaliste.
Comment?
Parce que, n'oubliez pas, la formation commence en famille. Quelqu'un disait que la formation commence au berceau et se termine au cimetière. Et quand on parle du berceau, l'enfant est au berceau en famille. Alors la formation commence là-bas. Déjà, à partir de la famille, il faut apprendre à l'enfant à véhiculer des informations qui sont vérifiées, sûres et qui ont des sources fondées. Et lui apprendre à critiquer, à analyser et à examiner les informations avant de pouvoir pouvoir les diffuser déjà partout de la famille.
Quel est le rôle de l'école pour lutter contre la désinformation et la mésinformation?
Le rôle de l'école, nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour former, nous sommes là aussi pour informer. Et ça, c'est ça le rôle de l'école, donc apprendre à l'enfant à pouvoir vérifier, critiquer et analyser les informations avant de les véhiculer.
Monsieur Odonkela, je rappelle que vous êtes enseignant au complexe scolaire Eliké à Kinshasa. Njili, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et c'est ainsi que la première manche de Pano Okapi touche à sa fin.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur les ondes de Radio Okapi. Vous écoutez votre rendez-vous quotidien Bana Okapi, un programme dédié à la jeunesse et aux familles en partenariat avec l'UNICEF. Dans ce numéro, nous mettons en lumière un fléau qui mine notre société, la désinformation et la mésinformation. Ces mots sont à l'origine de nombreuses difficultés qui rencontrent la population congolaise. Dans cette partie de l'émission, nous allons donner la parole à nos experts. Ils partageront avec nous leurs précieux conseils pour lutter contre la désinformation et ses conséquences néfastes. Restez avec nous car ces informations sont essentielles pour protéger nos enfants et construire un avenir meilleur. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sombella. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapenda Noyakris avec la mise en onde de Mimi Kindou et la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano.
Bana Okapi.
À l'ère de l'information omniprésente, il est crucial de comprendre la différence entre désinformation et mésinformation. Mais quels sont les dangers réels de ces phénomènes pour les jeunes et leurs familles? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Poli Mouzalia, journaliste et notre expert maison en vérification de faits et lutte contre la désinformation. Il nous éclairera sur ces notions et leurs impacts dans cet entretien avec Pascal Chinamula.
Monsieur Poli Mouzalia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et expert dans la vérification des faits et la lutte contre le fake news, producteur du magazine Les faits sont sacrés, qui se consacre à la même mission, la même thématique, qui est la lutte contre la désinformation. Faites-nous une petite dichotomie, une différence entre désinformation et mésinformation, de par leur définition, s'il vous plaît.
Alors, pour faire simple, hein, la désinformation, c'est quand quelqu'un invente ou change volontairement une information pour tromper les autres. Par exemple, si quelqu'un crée une fausse rumeur sur un artiste célèbre comme Koffi Olomide pour attirer des vues sur sa page, c'est de la désinformation. La mésinformation, par contre, c'est quand on partage une fausse information sans savoir qu'elle est fausse. Par exemple, tu peux voir une vieille vidéo d'un événement et que tu crois qu'elle est récente, tu peux la partager sur ta page en pensant qu'elle est récente alors que n'est-elle plus. Autre exemple, tu peux voir une vidéo d'un événement qui se passe au Nigeria par exemple, tu y crois, tu la partages en pensant que ça s'est passé en République démocratique du Congo, donc notre pays, c'est de la mésinformation. Alors pour résumer, c'est l'intention de tromper qui différencie la désinformation de la mésinformation. La désinformation suppose un mensonge volontaire, pendant que la mésinformation consiste à diffuser, sans le savoir, de fausses infos.
Désinformation et mésinformation, ça entre tous dans les cadres de fake news. Aujourd'hui, quels sont les dangers auxquels la jeunesse fait face, les jeunes dans leur ensemble, mais également leur famille?
Alors, la désinformation peut causer beaucoup de problèmes. Hein. Les fausses informations peuvent créer la panique. Si quelqu'un, par exemple, partage une fausse information sur une catastrophe imaginaire, les gens peuvent avoir peur pour rien, commencer à fuir dans tous les sens. Et dans cette panique, des gens peuvent être blessés et d'autres peuvent même mourir. L'autre danger des fausses informations, c'est la manipulation. Hein. Certains utilisent de fausses infos pour influencer l'opinion des jeunes, par exemple en période électorale, afin qu'ils votent pour tel ou tel autre candidat. Les fausses nouvelles peuvent aussi mettre en danger la santé. Hein. Régulièrement sur les réseaux sociaux, on voit passer des informations inexactes sur des faux médicaments ou des régimes alimentaires soi-disant miracles qui peuvent être dangereux pour la santé. Enfin, les fausses informations peuvent diviser les familles, les amis ou même les communautés. Si on croit à des mensonges sur un groupe de personnes ou une communauté, cela peut créer des tensions et même des disputes.
Aujourd'hui, dans un pays où la désinformation a pris vraiment de l'avancée avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information, de la communication, quelles sont les sources d'informations qui sont aujourd'hui les plus fiables pour le jeune dans notre pays?
Pour être sûr d'avoir de vraies infos, il vaut mieux choisir des sources officielles et des médias reconnus pour leur crédibilité. Hein, les médias sérieux comme Radio Okapi, la RTNC, la BBC ou RFI sont reconnus pour leur sérieux. Ensuite, les sites officiels, hein, les sites internet du gouvernement par exemple, ou d'organisations comme l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Santé ou l'UNICEF pour les droits des enfants. Enfin, il y a les médias qu'on appelle médias de fact-checking. Ils sont spécialisés, c'est des sites internet spécialisés dans la vérification des fausses informations. C'est le cas de Balobaki Check ici chez nous en République démocratique du Congo, ou encore Congo Check. Ailleurs, en France, il y a par exemple AFP Checking, et des initiatives similaires se font à travers le monde pour justement combattre le fléau des fausses informations.
Également, à RDC, il y a aussi un mouvement de jeunes qu'on appelle Veilleurs du Web qui s'inscrivent dans la même dynamique. Mais en tant que praticien, quelles sont aujourd'hui les astuces qui permettraient aujourd'hui aux jeunes de vérifier si une information est vraie ou fausse, techniquement parlant?
Alors la première, hein, et qui semble la plus évidente, c'est de regarder la source. Se demander qui a publié l'information, est-ce que c'est un site internet sérieux ou plutôt c'est une page douteuse. La deuxième étape, c'est évidemment de vérifier la date de publication, parce que une info ancienne peut être remise en avant pour manipuler et tromper le public. Le troisième réflexe, c'est évidemment de croiser l'information avec d'autres sources. Si c'est vrai, d'autres médias sérieux en parleront aussi. Enfin, ça c'est un peu plus technique, hein. Il faudrait utiliser des outils comme Google Images pour identifier ou authentifier des photos ou des vidéos. Concrètement, tu peux copier-coller dans l'application une capture d'écran de l'image douteuse et lancer une recherche d'image inversée pour voir si cette photo a été modifiée ou plutôt sortie de son contexte.
Vous, en tant que journaliste spécialiste dans les domaines de la lutte contre les fausses informations, quel est le plus grand défi auquel vous faites face, surtout dans un contexte comme la RDC où l'information est facile d'accès?
Le plus grand défi, à mon avis, actuellement, c'est l'évolution très rapide hein, des techniques de désinformation qui s'alignent en fait avec l'évolution technologique. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de l'émergence de l'intelligence artificielle qui permet de générer des photos ou des vidéos plutôt réalistes qui peuvent tromper tout le monde. Et ce qui est vraiment, vraiment dangereux, c'est le fait que ces outils sont de plus en plus accessibles, moins chers et faciles d'utilisation, ce qui fait peser vraiment un risque sérieux de propagation et je dirais de démocratisation, entre guillemets, de la production à grande échelle des fausses informations. Pour moi, c'est ça le plus grand défi actuellement.
Voilà, un message pour la jeunesse. Comment ces jeunes, les jeunes congolais qui utilisent à ce les médias sociaux peuvent être à travers cette utilisation des acteurs de la lutte contre la désinformation et la promotion de la bonne information sur les réseaux sociaux.
Alors, les jeunes ont un rôle important à jouer hein, pour contrer la désinformation. Voici quelques conseils simples que je peux leur prodiguer. D'abord, il faut qu'ils évitent de partager les informations sans les vérifier. Avant d'envoyer une info à ses amis ou dans un groupe WhatsApp, il faut prendre le temps de vérifier. Ensuite, les jeunes peuvent éduquer ou sensibiliser leurs proches, leurs familles, hein, leurs amis, leur expliquer comment repérer les fausses informations et aussi les dangers de partager des fausses nouvelles sur leur page. Les jeunes peuvent aussi signaler les fausses informations sur Facebook, X ou TikTok par exemple. Il y a une option qui permet de signaler les contenus qui sont donc mensongers ou trompeurs. Enfin, les jeunes peuvent suivre et partager des sources fiables comme Radio Okapi. Et cela permet d'aider les autres à avoir des infos correctes en partageant les bonnes sources. En conclusion, pour me résumer, je dirais, les fausses informations peuvent être dangereuses, mais chacun d'entre nous, hein, y compris les jeunes, peut apprendre à les repérer et surtout à les stopper. Pour cela, il faudrait vérifier avant de partager. C'est une manière de se protéger et de protéger les autres en même temps.
Pauline Mouzalia, nous vous remercions pour votre contribution.
C'est à moi de vous remercier.
Notre exploration de la lutte contre la désinformation nous conduit au Nord Kivu, où nous allons à la rencontre de l'ONG Africa Inclusion. Cette organisation engagée dans la promotion du vivre ensemble, de la cohésion pacifique et de la paix en Afrique, et particulièrement en RDC, a fait de la lutte contre la désinformation un de ses piliers. Rigienne Mwanaweka, chargée de communication d'Africa Inclusion, insiste sur l'urgence d'intégrer un cours dédié à la lutte contre la désinformation dans le programme scolaire dès l'école primaire. Selon lui, cette mesure permettra aux enfants de grandir en étant conscients des conséquences néfastes de la désinformation. Il lance d'ailleurs également un appel pressant aux parents, les exhortant à surveiller attentivement l'utilisation des technologies par leurs enfants. Écoutez Rugène Mwanaweka dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Guylaine Mwanaweka, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre organisation et comment elle lutte contre la désinformation?
Notre organisation s'appelle Africa Inclusion. C'est une organisation qui milite pour le vivre ensemble dans le continent africain, la cohésion pacifique et la promotion de la paix entre différentes communautés au continent, mais principalement dans notre pays, la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Comme vous le savez, ce sont des régions où il y a assez de désinformation, assez de fake news. Alors, la lutte contre la désinformation est intégrée à nos campagnes sur la diversité et la paix. Comme vous le savez aussi, nous sommes dans un contexte de guerre. La République démocratique du Congo qui fait face à l'agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise à l'est de la RDC, et c'est un terrain propice pour la désinformation. Et donc nous avons pris ces secteurs comme notre bataille pour effectivement lutter contre la désinformation. Comme vous le savez encore, il y a certains leaders du milieu, certaines personnes qui utilisent la fibre culturelle ou la fibre ethnique pour tirer profit, effectivement, et manipuler certaines opinions. Alors, c'est pourquoi notre organisation milite. D'abord, il y a beaucoup d'aspects sur le vivre ensemble et aussi sur la lutte contre la désinformation.
Quelles sont les principales sources de désinformation identifiées dans votre région?
Alors, Guylaine, avant de continuer, je vais d'abord préciser certains concepts qu'on va utiliser. Il y a le fake news, la désinformation, il y a d'autres, pas des lantox, mais il faut préciser que d'abord, le fake news, c'est un anglicisme, mais en français, on dit lantox. Alors, comme vous avez demandé, la principale source de désinformation, malheureusement, c'est messieurs et madame, tout le monde, comme vous le savez, tout le monde, en fait, a un smartphone. Et un smartphone a des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui ont des groupes, qui ont on a beaucoup de contacts, la communication est plus fluide et plus rapide. Malheureusement, nous tombons plus dans la désinformation quand nous publions des informations que nous n'avons pas nous-mêmes vérifié. Il y a aussi le parti politique, les candidats qui veulent se faire une santé politique. Vous les avez aussi vus lors des élections récentes en 2023. On a vu des partis politiques, des leaders politiques qui ont fomenté des fausses histoires et qui les ont utilisés pour se faire une santé politique, qui étaient de fausses informations. Nous avons aussi des médias et des influenceurs en ligne. Alors, parmi les médias, malheureusement, il y a des médias qui n'ont pas une rigueur dans le traitement de l'information, qui publient de fausses informations au lieu d'éclairer l'opinion. Il y a aussi des influenceurs qui sont financés encore par des acteurs politiques. En fait, la politique, c'est un secteur qui alimente beaucoup les fake news dans notre pays. Bon, il y a aussi des pages communautaires et des blogueurs. Vous allez voir sur Facebook actuellement, il y a des groupes qui sont populaires, mais qui n'ont pas une rigueur dans les traitements. Et aussi, bon, certains blogueurs qui ne sont pas des journalistes, mais qui ont créé des pages en ligne, qui ont créé des comptes Twitter, des comptes TikTok, etc.
Donc tout ça pour propager la désinformation.
Exactement, c'est vraiment des fois organisé, structuré même.
Et alors, comment votre organisation travaille-t-elle avec les jeunes et les familles pour lutter contre la désinformation?
Merci pour la question, Guylaine. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de la famille. Exactement, c'est une éducation. La lutte contre la désinformation doit commencer au niveau plus basique pour remonter à un niveau plus avancé. Si le papa ou la maman insiste beaucoup sur donner ou dire à ses enfants de ne pas publier une fausse information ou avant de publier qu'il faut vérifier, cela apporterait une grande contribution à la lutte contre le fake news. Alors comment notre organisation travaille-t-elle avec les jeunes et les familles pour lutter contre la désinformation? Comme c'est ça votre question. Alors nous utilisons plus les radios communautaires et les médias sociaux pour diffuser des informations fiables et démystifier les rumeurs. Comme vous le savez, les radios communautaires ont un grand ancrage dans la communauté. Et ce sont des médias qui sont écoutés. Nous avons des programmes avec certaines radios communautaires. Aussi, nous travaillons avec les jeunes, avec les étudiants, pour développer leur esprit critique. Nous leur apprenons, par exemple, comme vous le connaissez en tant que journaliste, la règle de 5W, c'est un anglicisme, où on dit « what, where, when, who ». Je ne sais pas si j'ai donné les 5, mais en français, c'est le « qui », le « quoi », le « quand », le « comment » et le « pourquoi ». Donc, une information qui est complète doit au moins avoir ces 5 éléments. Et nous disons ça aux étudiants pour effectivement qu'ils apprennent à dire c'est quoi. Celui-ci a publié une information, qui est le sujet, donc où est-ce que ça s'est passé, quand, avec quel objectif. Ouais, exactement. Il faut avoir 3 sources indépendantes, c'est ce que nous disons aux étudiants.
Vous n'utilisez pas aussi des sensibilisations en masse, parce qu'on peut se dire, est-ce que la vieille femme là, au village, elle peut aussi écouter la radio? Surtout, peut-être que ça ne se dit pas dans sa langue.
Effectivement, il y a des barrières, notamment des barrières linguistiques, mais comme vous avez dit, pour pénétrer effectivement dans des milieux plus avancés, peut-être qu'on va en parler dans nos perspectives d'avenir. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore cet aspect-là, mais nous y travaillons pour voir comment est-ce que ceux-là qui sont dans les milieux plus reculés, qui ne comprennent pas, par exemple, le français, qu'ils puissent aussi avoir accès à ces informations. Mais nous y travaillons. Pour les activités de masse, je vous l'ai dit, c'est nous travaillons avec des étudiants.
Regan, quels sont les outils et méthodes utilisées pour vérifier les informations selon vous?
Il y a beaucoup d'outils, mais premièrement, le premier outil, c'est d'abord l'esprit critique, c'est d'abord la personne elle-même. Vous, moi, mon voisin, l'auditeur qui nous écoute, nous l'encourageons d'abord la personne à avoir un esprit critique. Alors, ça veut dire nous formons les étudiants à prendre un recul face à une information. Ensuite, il y a maintenant l'utilisation des outils numériques ou technologiques qui sont mis en place. Par exemple, pour la vérification des images, il y a beaucoup d'images qui sont fausses, qui sont diffusées sur Internet ou sur le WhatsApp. Vous allez voir une fausse image qui est sortie de son contexte. On va les brandir pour dire voici ce qui s'est passé, jusqu'à retrouver l'origine de la publication qu'on appelle le noyau dans le fact-checking. Alors, pour vérifier ce genre d'image, il y a beaucoup d'outils. Il y a par exemple Google Reverse Image que vous avez sur votre téléphone avec Google. Il y a TinEye, il y a Yandex. Ça, c'est pour la vérification des images. Il y a certains médias qui ont déjà développé certains outils pour vérifier les informations. Nous utilisons par exemple l'extraction et vérification des images clés. Les images clés, ce sont les images par seconde qui sont comme des photos qui sont exploitées pour effectivement étudier la véracité de la vidéo. Il y a aussi pour la recherche textuelle, il y a par exemple des textes qui sont publiés et nous prenons les textes, nous copions, collons sur un moteur de recherche, même dans les réseaux sociaux. Et vous allez voir, il y a une partie souvent de ces textes qui revient et on peut remonter, on dit, tel a déjà dit ceci, tel. Et parfois, on voit un texte qui date de 2 mois, d'une année, répiqué ou remis dans le contexte qui n'est pas le sien. Alors, nous faisons aussi les recoupements des sources comme je vous ai dit, nous comparons les informations provenant de plusieurs sources fiables, notamment la triangulation, comme je vous l'ai dit, c'est l'utilisation de trois sources indépendantes pour donner un peu de crédit à une information.
Poursuivons avec notre entretien. Quels sont les types de fausses informations les plus courants?
Pour parler des types de fausses informations les plus courants, on va aussi étudier l'écosystème de la désinformation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui alimente la désinformation? Vous allez voir que c'est souvent le moment où il y a les élections. C'est un moment où tout le monde veut se tirer une santé politique. Et malheureusement, la désinformation électorale et politique, c'est parmi les types de fausses informations. Les types, on va manipuler l'opinion à travers des fausses nouvelles et des images qui sont truquées. Et l'autre type de fausses informations, ce sont les rumeurs qui sont liées au conflit et à la sécurité. Comme je vous l'ai dit, notre pays, à l'est par exemple, même à l'ouest du pays, même au niveau du Haut-Katanga, il y a beaucoup de conflits interethniques, souvent alimentés par des discours de haine. Et voilà, c'est le rumeur lié au conflit pour faire que deux communautés s'entracusent ou s'entretuent sont parmi le type de fausses informations. Alors, il y a aussi la mésinformation sur la santé. Nous en avons vécu partout en RDC avec la COVID et Ebola. Certaines personnes ont mal utilisé ou ont manipulé l'opinion à travers Internet. Donc, il y a aussi des mésinformations autour de la santé. Bon, il y a aussi des canulars. Les canulars, c'est ce qu'on appelle de blagues. On peut penser qu'aux blagues sur Internet, pourtant, ce sont des fausses informations qui peuvent être utilisées pour faire du mal à une catégorie de personnes. Alors, il y a aussi des discours de haine, qui sont des messages qui incitent à la violence. Il y a aussi des arnaques en ligne à l'est de la RDC. On en vit beaucoup. Vous allez voir un SMS de quelqu'un qui va dire: vous avez trouvé un boulot, et voilà, le salaire c'est $500, contactez-moi avant de faire ceci. Malheureusement, il y a ceux-là qui tombent dans ces filets, donc ce sont des fausses opportunités d'emploi et aux promesses des gains financiers. Voilà en quelque sorte le type de fausses informations les plus courants.
Et quand vous parlez de votre site, vous ne détaillez pas comment vous trouvez?
Alors, pour trouver notre site, il faut aller sur www.africainclusion.org.
Ligène Manaweka, merci.
Merci beaucoup à vous, Gulen.
Bana Okapi.
Vous êtes bel et bien sur Radio Okapi et vous êtes en train de suivre le magazine Bana Okapi. Christian Malélé, chercheur spécialisé dans la vérification de faits et membre de la plateforme Lokuta Mabé qui lutte contre les fausses informations en RDC, a souligné l'impact réel de la désinformation sur la société congolaise. Selon lui, les parents ont un rôle primordial à jouer pour protéger leurs enfants des théories du complot et des fausses informations. Il estime que la désinformation touche tous les domaines de la vie, mais qu'elle est particulièrement forte en politique et en santé. Christian Malélé s'entretient avec Stanislas Diomi.
Monsieur Christian Malélé, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour chers auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes chercheur spécialisé dans la vérification de faits à Lokuta Mabé, qui est une plateforme qui lutte contre les fausses informations en RDC. Parents et enfants ensemble contre la désinformation et la mésinformation, c'est le sujet au cœur de notre émission de ce jour. Alors, que devons-nous comprendre de la théorie du complot?
Pour comprendre la théorie des complots, il faut comprendre comment cela fonctionne. La théorie des complots ou les théories des complots, c'est un ensemble d'explications que l'on donne à la survenance d'un événement ou d'un phénomène ou d'un fait que l'on pense être le résultat d'un complot ou d'un plan. C'est ça la théorie des complots.
Quels sont les domaines qui en sont le plus victimes et qui peuvent avoir de l'incidence sur la vie des enfants et des jeunes?
Alors, les domaines qui sont touchés par ces théories des complots, je parlerai de la désinformation et de la malinformation, c'est tous les domaines actuellement. C'est tous les domaines actuellement. Aucun domaine de la vie n'est épargné par les théories des complots, voire les fausses informations. Mais les domaines qui sont le plus touchés, c'est d'abord la politique, ensuite la santé. Donc, la politique et la santé. Alors, comment se protéger face à cela, ou quel est l'impact de ces fausses informations sur les enfants et les jeunes? Je dirais l'impact est réel. Mais cet impact ne touche pas directement les enfants ou les jeunes, mais ça passe d'abord par les parents. Donc, si les parents ne sont pas mûrs pour permettre aux enfants de consommer de la vraie information, certainement ça touchera ou ça toucherait ces enfants, voire ces jeunes. Et pour d'abord me limiter sur les enfants, ce sont des parents qui sont censés protéger les enfants face aux théories des complots. Actuellement, on ne peut pas empêcher à son enfant de se connecter sur les réseaux sociaux, parce que il n'y a pas que de faux contenus sur les réseaux sociaux, il y a aussi des bons contenus sur les réseaux sociaux. Mais ce sont des parents qui sont censés veiller sur la vie de l'enfant. De la même manière que les parents veillent sur la vie physique de l'enfant, ils sont aussi censés veiller sur ce que regarde l'enfant, ce que suit l'enfant sur Internet. Et c'est ça le rôle de parent à l'ère de la désinformation ou à l'ère des théories des complots. Et pour les jeunes qui sont adolescents, qui sont à l'étape de découvrir le monde, de découvrir les nouvelles choses, les nouvelles connaissances, c'est aussi dangereux, parce que le phénomène, parmi ces connaissances qui se trouvent actuellement sur Internet, il y a aussi des fausses informations, il y a des théories des complots. Et ces théories des complots et des fausses informations ont toujours des effets néfastes dans la vie des jeunes. Raison pour laquelle je pense que les parents ont un grand rôle à jouer dans la consommation des informations actuellement par leurs enfants et les adolescents, donc des enfants qui sont à l'étape de l'adolescence.
Quels sont les pièges le plus courants de la désinformation en ligne?
Alors, le piège actuellement de la désinformation, c'est ce qu'on retrouve régulièrement sur Internet, ce sont des photos montées, donc des photos qui ont été retouchées par un logiciel de traitement de photos, par exemple Photoshop. C'est un genre ou un format de fake news que nous trouvons très souvent sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des vidéos montées par des logiciels de traitement des vidéos ou des montages vidéo, par exemple Premiere Pro. Donc ces genres de contenus, on les retrouve aussi régulièrement sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi une autre catégorie qui sont des propos attribués aux gens. Par exemple, un politique qui n'a rien dit, mais quelqu'un quelque part fabrique une information en l'attribuant à ces politiques, à cette personnalité publique. Donc on a aussi des informations qui sont attribuées à des gens, alors que ces personnes-là n'ont jamais tenu ces genres de propos. Et au-delà de ça, nous avons aussi des propos modifiés légèrement, par exemple, juste pour induire en erreur la population ou la masse, voire des jeunes qui n'ont pas vraiment la capacité de démêler le vrai du faux, voire les enfants. Donc il y a des gens mal intentionnés qui déforment des propos, des déclarations des gens sur Internet pour induire les gens en erreur, pour faire croire au public ou aux enfants, voire les adolescents, voire même des parents, que telle personne a dit telle chose alors que c'est faux, alors que ce n'est pas vraiment ce que la personne avait dit, ou ce n'est pas exactement ce que la personne a voulu dire. Et actuellement, nous voyons la montée de l'intelligence artificielle, et nous tombons aussi devant des images, voire des vidéos générées par intelligence artificielle, qui sont complètement générées par intelligence artificielle, voire même des audios qui sont générés totalement par intelligence artificielle. On peut entendre vraiment la voix de la personne alors que la personne n'a jamais dit ces choses. C'est juste que le robot a reproduit le timbre vocal de la personne, et on peut entendre vraiment la voix de la personne alors que c'est juste un robot qui l'a généré. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore venue perfectionner la fausse information. Donc on est vraiment dans une étape compliquée, parce que l'intelligence artificielle a perfectionné la fausse information.
Et dans ce cas, comment protéger ces données personnelles face à la désinformation?
Alors, pour protéger ces données face à la désinformation actuellement, les conseils que je peux donner aux jeunes, aux enfants, tout comme aux parents, c'est juste de fournir moins d'informations aux plateformes en ligne. Fournir moins d'informations, surtout des informations personnelles. Ne les fournissez jamais aux plateformes en ligne. Parce que les réseaux sociaux, c'est un espace public, ce n'est pas un espace privé. Donc pour protéger sa vie privée, il faut simplement garder ses informations privées, de ne pas le mettre en ligne. Parce que le fait de mettre des informations privées en ligne vous expose déjà à la désinformation ou au vol de vos informations pour l'arnaque et autre chose. Donc c'est vraiment ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner concernant la protection des données personnelles, c'est juste de ne pas le publier sur la place publique qui est l'Internet. Ou les réseaux sociaux pour être un peu plus précis.
Monsieur Christian Malélé, quels sont les outils de contrôle parental utiles pour lutter contre la désinformation?
Alors, les outils de contrôle parental actuellement, moi je pense que c'est juste l'éducation aux médias. Donc, on doit apprendre actuellement aux enfants l'éducation aux médias. Et c'est quoi l'éducation aux médias? De manière simple, c'est juste la manière de consommer le média. Aujourd'hui, on est face à une situation de désinformation qui a altéré la qualité de l'information. C'est vrai que parmi cette masse d'informations qui est aussi vraie, nous retrouvons des fake news. Donc, c'est-à-dire, on a d'une part des fausses informations et d'une autre part des vraies informations. Mais le problème maintenant, c'est comment dissocier ces informations, comment démêler le vrai du faux. C'est ça le plus grand problème. Donc, le meilleur bouclier contre les fausses informations actuellement dans des familles, c'est juste le fait d'apprendre les fondamentaux de la vérification des faits. Comment savoir si l'information qui se présente devant vous est vraie ou est fausse? Vous pouvez juste vous poser des bonnes questions. C'est quoi la source de l'information? Qui a publié l'information? Est-ce que l'information provient d'un média? Est-ce que ces médias est crédible? Est-ce que l'information provient vraiment de la personne citée? Est-ce que la personne en question a des comptes réseaux sociaux? Vous pouvez directement vous diriger sur le compte officiel de la personne pour vérifier si la personne a vraiment tenu ses propos. Il ne suffit pas simplement de dire « Ah bon, j'ai vu telle personne a dit telle chose », mais il faut vraiment aller, en journalisme on parle de la source primaire, donc il faut vraiment chercher là où la personne citée dans une information a prononcé ses paroles ou a tenu ses discours. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous dire directement que certainement ça a été fabriqué ou certainement ça a été modifié. Ça, c'est juste l'éducation aux médias actuellement qui peut sauver une famille.
Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour utiliser l'Internet de manière responsable et sécurisée?
Alors, les conseils que je peux donner aux jeunes pour utiliser Internet de manière responsable et sécurisée, de manière sécurisée, il faut juste fournir moins d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, actuellement, Facebook même nous donne la possibilité de verrouiller notre profil pour ne pas permettre à tout le monde de voir nos informations. Donc, il faut juste donner moins d'informations aux plateformes en ligne pour se rassurer, rassurer ses comptes réseaux sociaux ou sa présence en ligne.
Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour utiliser l'Internet de manière responsable et sécurisée?
Et les conseils que je peux donner aux jeunes concernant l'utilisation responsable d'Internet, c'est que il faut vraiment éviter de véhiculer des messages de haine, des discours de haine. Il faut éviter de fabriquer des informations pour nuire à une personne ou à une institution parce que les effets ou les conséquences sont réelles. Donc il faut vraiment les éviter parce que ça peut toucher, ça peut déstabiliser même une nation, ça peut déstabiliser une communauté et ça peut vraiment déstabiliser la société tout entière. Donc si vous minimisez l'importance de ne pas créer de la désinformation ou de ne pas véhiculer la fausse information, plutôt vous le verrez lorsque les conséquences vont en découler. Donc ce qui ne sera pas intéressant parce que nous ignorons la grandeur ou le degré, voire le niveau des conséquences qui peuvent surgir ou résulter de cette fausse information ou de ces discours de haine.
Monsieur Christian Malélé, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans la vérification de faits à Lukutamabé, qui est une plateforme qui lutte contre les fausses informations en RDC. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
Les amis de Bana Okapi, votre magazine se poursuit. Nous avançons petit à petit vers la fin. Écoutons le psychologue Nira Chanira. Il nous dit que la désinformation est un fléau qui gangrène notre société avec des conséquences désastreuses sur l'éducation. Elle perturbe le cycle d'apprentissage, entrave l'acquisition de compétences essentielles et affecte les développements cognitifs, conatifs et sociaux des enfants et des jeunes. Face à ce problème majeur, le psychologue Nira Chanira Kanyinda préconise préconise une approche globale. Dialogue et confiance avec les jeunes, rôle actif des adultes, implication de tous les acteurs éducatifs et l'engagement du gouvernement. Un appel à l'action lancé dans cet entretien avec Pascal Tinamoula.
Bonjour Monsieur Chaniras.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de la question de la désinformation et ses effets sur la vie sociale, surtout des enfants. Mais aujourd'hui, sur les plans psychologiques et émotionnels, Monsieur Nera Chanera, comment vous pensez la désinformation peut-elle affecter les émotions et les bien-être des jeunes?
Déjà, ce qu'il faut noter au préalable, c'est que la désinformation fait partie de la manipulation persuasive. Pourtant, l'information fait partie de l'acquisition des connaissances et parfois même des compétences. C'est par ces processus de certaines informations telles que transmises partiellement aux enfants favorise à ce que les enfants acquièrent un bagage de connaissances, bien entendu, et parfois aussi certaines compétences. Et comme le savons, l'enfance, c'est la période de la construction sociale, c'est la période de la formation de la personnalité. Au cours de cette période, que l'enfant, en fait, se développe, ce qui lui permet, à âge adulte, d'être une personne autonome, intellectuelle, réfléchie. Et lorsque l'enfant est victime de la désinformation, ce qui sous-entend que l'acquisition de connaissances chez l'enfant est désorientée. Et ce qui fait en sorte que non seulement l'enfant subira ce qui est de la manipulation persuasive, mais l'enfant aussi sera totalement dérouté parce que il est appelé à apprendre la vraie information, la vraie connaissance qui lui permettrait de développer son cerveau, qui lui permettrait plutôt de développer des aptitudes affectives, des aptitudes cognitives, des aptitudes même d'interaction sociale. Et c'est de cette manière que la désinformation affecte sensiblement la personnalité de l'enfant parce qu'il est complètement désorienté et que ça a un effet néfaste, d'autant plus que l'enfant n'aura pas mieux développé ses aptitudes et bien entendu, il ne va pas aussi bien interagir au sein de la société, d'autant plus que ses tempéraments, ses caractères et ses aptitudes ont été affectés négativement, involontairement.
Vu les conséquences maintenant et les effets de cette désinformation sur l'émotion et les bien-être des jeunes, comment aujourd'hui sur le plan psychologique on peut parvenir à aider le jeune à gérer leurs peurs et leurs angoisses quand ils font face à la désinformation en ligne et dans la société?
Déjà, la méthode la plus prolifique, c'est la causerie éducative. Mmh. Et cette causerie éducative devrait déjà commencer au sein de la famille. Le grand travail serait de pouvoir sensibiliser, mobiliser les parents à apprendre comment aider les enfants à pouvoir détecter des fake news ou de la désinformation et comment est-ce qu'eux aussi, en tant qu'enfants, ils devraient, par exemple, signaler de telles informations, de telles publications qui diffusent la désinformation. Il est aussi très important que l'école et l'église, qui sont des acteurs clés dans le contrôle social formel, dans le processus de l'éducation de l'enfant, joue un rôle très important parce que l'enfant a besoin des modèles, l'enfant a besoin de références, l'enfant a besoin des repères et c'est sur base de cela que l'enfant va pouvoir se conduire ou arriver même à pouvoir prévenir des situations ou des cas des informations, surtout à l'ère de cette mondialisation, de l'évolution de la technologie où à tout âge nous avons la possibilité d'accéder à Internet, d'accéder aux réseaux sociaux ou peut-être les informations, les canaux, des informations. Moi, je pense qu'à ce niveau, la famille, l'école et l'église jouent un rôle prépondérant dans la prévention de la désinformation pour au moins garantir le bien-être émotionnel et aussi intellectuel de l'enfant parce que ça a une incidence très significative sur le développement des aptitudes de l'enfant. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la causerie éducative individuelle, ça peut être aussi fait en groupe avec les enfants, est un mécanisme très important parce que au cours de la causerie éducative, l'enfant va acquérir en fait des notions très essentielles sur la moralité, sur l'éthique et aussi sur l'analyse critique. Et l'enfant, en ce moment-là, après avoir développé une compétence sur l'analyse critique, n'aura pas tendance à pouvoir valider l'information qu'il reçoit directement. Il aura les réflexes de pouvoir vérifier l'authenticité de l'information. Donc, dans cette perspective, il est très important de pouvoir accompagner les enfants pour prévenir les cas des abus qui proviennent de la désinformation, particulièrement sur les réseaux sociaux.
Exactement, il y a un aspect très très important qu'il faut prendre en compte. Aider les jeunes, oui, mais au moment où les jeunes, eux aussi, ont besoin d'aide et veulent faire le premier pas. Ici, on va parler des questions de personnes de confiance. Comment vous pensez on peut encourager le jeune à exprimer leurs émotions et à en parler avec des adultes de confiance?
La problématique de la confiance renvoie une fois de plus à la responsabilité régalienne des parents envers les enfants. Parce que les parents sont les premiers repères de l'enfant, sont les premiers modèles de l'enfant et ce sont les personnes à qui les enfants doivent avoir assez confiance. Et ça dépend du comportement ou de l'attitude des parents envers les enfants. Les parents doivent arriver à mettre en confiance leurs enfants pour que ces derniers puissent exprimer sans réserve, sans tabou, tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils ont, par exemple, subi. Et c'est le moyen le plus prolifique, à mon avis, pour pouvoir garantir la canalisation même de l'éducation de l'enfant, parce que il n'est pas évident de trouver d'autres personnes de confiance ailleurs. Et il n'est pas forcément aussi évident de s'assurer que l'enfant percevrait de la même manière une autre personne que ses parents, ou encore analyserait même les informations qui proviennent d'une autre personne que les parents. À un deuxième niveau, il s'agit maintenant des enseignants, des enfants à l'école, que ce soit à l'école maternelle, il y a des maîtresses, à l'école primaire et aussi aux humanités. Donc les enseignants, surtout à l'école primaire, sont des maîtres par excellence des enfants. Donc à l'école, l'enfant arrive à deux niveaux d'écoute, il écoute ses parents et que les maîtres. Donc, il faut qu'il y ait cette synergie entre les parents et l'école pour que ça puisse favoriser ces climats de confiance et que l'enfant puisse exprimer tout ce qu'il vit, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il subit. Et de cette manière, les parents et les enseignants vont amener l'enfant à pouvoir aussi faire l'analyse d'éthique pour savoir quelles sont les personnes de confiance auprès de qui il peut s'exprimer.
Des mesures de protection, mais également des mesures d'anticipation. Nous vivons aujourd'hui dans une communauté où l'information, elle est accessible à travers le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et la propagation des fausses informations, de la désinformation à travers le média, vous avez déjà évoqué ses effets sur l'éducation de la jeunesse et le bien-être de la jeunesse. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes que vous pensez les jeunes peuvent utiliser pour faire du recul et avoir un esprit critique avant de diffuser au lit qui était tomber directement dans les pièges dès la première vue?
La première chose, c'est que les jeunes devraient bâtir un idéal qu'ils aspirent à atteindre. Et c'est cet idéal qui va leur permettre de définir des vertus, des valeurs, des normes et des principes. Cet idéal va leur permettre également de pouvoir identifier des modèles et des repères par excellence. De plus, l'enfant arrive à se dire, avant que je valide une information quelconque, je dois d'abord l'analyser, connaître la source, me rassurer de l'authenticité de la source et de l'originalité, bien entendu, et du contenu. Et c'est ce qui me permettrait de pouvoir valider l'information que j'ai reçue. Et à un autre niveau, c'est que les enfants peuvent se choisir entre eux, des enfants aussi qui excellent, qui réfléchissent mieux, avoir des groupes de travail, des groupes de réflexion, par exemple, par analyser en groupe des informations, parce que quand on tombe dans un groupe de jeunes qui ont des vidéos, des vertus et ainsi de suite, et qui ont réfléchi, et ça facilite même l'analyse critique, parce que là, on a les sons de cloche d'une personne qui s'ajoute à notre propre temps de cloche, et on sait en conclure de manière conséquente pour savoir si c'est une bonne information, si c'est une désinformation, et que comment est-ce qu'il faut également exploiter l'information. Et l'enfant doit apprendre à agir par idéal, parce qu'on peut aussi recourir à la désinformation parce que nous sommes frustrés, parce qu'on n'aime pas une telle personne, ou en fonction de telles choses, des telles émotions négatives ressenties. Et lorsque une source partage ou diffuse la désinformation, il faut que les jeunes se mobilisent entre eux pour signaler cela, pour permettre à ce que, par exemple, Facebook ou TikTok ou que sais-je encore puisse amener à supprimer ces contenus, ou même à pouvoir aussi sensibiliser les gens à comprendre que ce qui est en train d'être circulé, c'est une fausse information, c'est une manipulation de la vie, et c'est destiné à pouvoir détruire la mentalité de la jeunesse.
Quelles sont les mesures d'accompagnement sont disponibles aujourd'hui pour accompagner le jeune victime de la désinformation et de la haine en ligne? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'elles sont envisageables au vu de la réalité de la désinformation actuellement dans notre pays?
Déjà, ce qu'il faut noter au préalable, c'est que l'éducation fait partie des droits économiques, sociaux et culturels. Et comme tout droit de l'homme, le droit à l'éducation est une responsabilité de l'État, en fait. Donc, c'est une des obligations de l'État à pouvoir protéger les droits à l'éducation, ça veut dire s'assurer que nul ne puisse entraver aux droits de l'éducation des enfants, de pouvoir les respecter, c'est que l'État lui-même doit s'assurer à ne pas porter atteinte ou à violer les droits de l'éducation, et bien entendu de mettre en œuvre des lois et législations qui permettraient de pouvoir mieux encadrer et favoriser la réalisation du droit à l'éducation. Et dans cette perspective, l'État dispose d'un large éventail pour mettre en œuvre des dispositifs qui permettraient aux enfants d'avoir des cadres d'échange, des cadres de discussion sur la question de la désinformation, des cadres de renforcement des capacités même, des centres culturels des jeunes où les jeunes viennent pour discuter autour des questions de l'heure, de la culture et tout ce qui va avec, et ce qui permettrait aux enfants d'avoir une bonne orientation et même un bon canal de renforcement de leurs capacités et même d'analyse des informations ou de la désinformation.
Missionnaire Akanyinda, la Radio Capi vous remercie.
Je vous en prie.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Capi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi, consacré à la lutte contre la désinformation et mésinformation. Deux mots auteurs de plusieurs méfaits dans notre pays. Les experts recommandent d'arrêter la course au scoop. Si vous avez un doute, pensez toujours en amont aux conséquences que cela peut engendrer. Toujours confronté, plusieurs sources mènent une recherche extrêmement poussée jusqu'à écarter les doutes. Vous souhaitez réécouter les témoignages poignants et les analyses de nos experts ? Rendez-vous de maintenant sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous retrouverez l'intégralité de cette émission ainsi que toutes nos autres productions. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Bana Okapi pour prolonger la discussion, partager vos impressions et poser vos questions. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Un grand merci également à Christian Mapinda Noyakris pour la coordination, à Jean-Marc Matokimofele Lady Jano pour la supervision. Merci également à Mimi Kindou Acosta pour la mise en onde. Je suis Sarah Sumbela, j'étais à la présentation. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.